Donc, Évangile de Luc, on va continuer notre texte, mais avant cela, je voudrais faire une transition. Avec ce qu'on a vu ces derniers temps ensemble ici même. Je vais relire deux versets de la première lettre à Timothée chapitre 6 qui m'ont beaucoup interpellé. Je me suis dit quand même il faut essayer de creuser un petit peu tout ça. On l'avait fait un petit peu ensemble le mercredi à l'étude et je voudrais qu'on le fasse plus approfondi tout ensemble le dimanche. 1 Timothée 6, verset 3, je lis. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses, disputes de mots, doumesse, envie, querelle, calomnie, mauvais soupçons. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'ententement, privés de vérité, croyants. Que la piété est une source de gain. Verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Quand nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture, si nous avons le vêtement, cela nous suffira. Verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car, verset 10, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Déjà du temps de l'apôtre, il y avait des problèmes avec les responsables d'église qui étaient là pour l'argent. Déjà avec les apôtres présents. Alors, j'avais cité un des problèmes à laquelle l'Église de Jésus a faire face aujourd'hui, qui est l'Évangile de la prospérité, qui enseigne, si vous donnez votre argent dans l'offrande du culte, en retour, Dieu va vous bénir. C'est un investissement que vous faites là, vous allez retrouver avec les intérêts, en quelque sorte. C'est pour les pays pauvres. Mais pour nous, est-ce que nous sommes au clair avec notre argent? Parce que nous, on a d'autres problèmes ici. C'est pas comme dans les pays qui sont pauvres. C'est que nous, dans les pays riches, il manque des serviteurs de Dieu, il manque des anciens, des pasteurs dans les églises. Et pourquoi il y a pénurie? C'est peut-être pour un problème inverse. C'est qu'il est difficile de faire vivre sa famille avec le soutien que peut proposer les églises. Et les pasteurs, les personnes en plein temps ont la réputation d'être des personnes corvéables à souhait. Là, on les rémunère, donc ils sont à la disposition des frères et des sœurs. Est-ce que nous sommes au clair avec les petits sous? Est-ce que c'est vraiment clair? Est-ce que nous avons les idées claires ou est-ce qu'il y a besoin, comme dit Paul, de revenir et de s'attacher aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ? Alors, est-ce que ce que vous voulez faire ce matin, est-ce qu'on peut faire ça ensemble? Ne répondez pas tous oui en même temps. On va essayer de le faire par la grâce de Dieu. Donc on va faire des révisions avec la parabole de Luc, chapitre 16, la première des paraboles. Je me suis aperçu que j'avais traité ce sujet il y a 2 ans, mais je ne m'en rappelais pas. Donc vous avez vu que j'ai quelques difficultés avec ma mémoire. Je vous en demande pardon, mais on ne va pas tout à fait aborder le sujet sous le même angle. On ne va pas le développer de la même manière. Plus approfondi, on va approfondir davantage juste cette parabole-là. Ce matin ensemble. On va la lire, Luc, chapitre 16, versets 1 à 13, donc, la suite de notre texte, de tout à l'heure. Donc, Jésus s'adressait aux pharisiens, et cette fois-ci, Jésus dit à ses disciples, Un homme riche avait un économe qui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ?» Attendez, je change de version, je n'avais pas prévu de changer un petit peu de version. Jésus disait aussi à ses disciples, un homme riche avait un intendant, celui-ci fut accusé de dilapider ses biens. Il l'appela et lui dit « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton intendance, car tu ne pourras plus être mon intendant. » Je lis dans la Nouvelle Bible Seconde. L'intendant se dit « Que vais-je faire ? Puisque mon maître me retire l'intendance. Bêcher, j'en ai pas la force. Mendier, j'en aurai honte. » Je sais ce que je vais faire pour qu'il y ait des gens qui m'accueillent chez eux quand je serai relevé de mon intendance. Alors, verset 5, il fit appeler chacun des débiteurs de son maître. Il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? Combien dois-tu à mon maître? 100 baffes d'huile, répondit-il. Ça fait à peu près 2000 litres d'huile d'olive. Et il lui dit, prends ton billet, assieds-toi, vite, écris 50. Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? » « 100 corps de blé, » répondit-il, « à peu près 20 000 litres. » Il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Le maître félicita l'intendant injuste parce qu'il avait agi en homme avisé. Car les gens de ce monde sont plus avisés dans leur rapport avec leurs semblables que les fils de la lumière. Verset 9, « Eh bien moi. » Moi, je vous dis, faites-vous des amis avec le mammon de l'injustice, pour que, quand il fera défaut, il vous accueille dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans une petite affaire est digne de confiance dans une grande. Celui qui est injuste dans une petite affaire est aussi injuste dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance avec le mammon injuste, qui vous confiera le bien véritable ? Et si vous n'avez pas été digne de confiance pour ce qui appartenait à quelqu'un d'autre, qui vous donnera votre propre bien ? Aucun domestique ne peut être esclave de deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas être esclave de Dieu et de Mammon. Le titre que j'ai choisi donc ce matin... Utiliser les richesses injustes pour préparer l'éternité. Oui Seigneur, nous sommes devant ta parole, merci pour ce qu'elle est infiniment au-delà de tout le prix qu'on peut lui apporter, les paroles de Jésus. Merci de nous aider à nous en nourrir ce matin, comme nous l'avons fait et comme nous devons le faire régulièrement. Merci de faire cette œuvre dans nos vies, que de les transformer, que de les changer pour que nous ressemblions de plus en plus à notre Maître, Jésus. Merci pour ces paroles qu'il a données à ses disciples et maintenant à nous, pour nous instruire, pour nous faire grandir dans la foi. Seigneur, accomplis cette œuvre que de nous transformer, que de nous changer, que de nous modelé par Jésus. Amen. Alors il y a deux parties dans notre texte, vous avez noté, on va d'abord regarder la parabole de Jésus. Donc Jésus dit à ses disciples, Jésus dit aussi à ses disciples, il y a un lien avec les paraboles qui ont précédé, dont on a parlé tout à l'heure, la brebis perdue, le drachme perdu et le fils perdu, où il s'adressait aux scribes qui disaient « Cet homme accueille les gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Et donc, ici c'est différent. Ici, Jésus s'adresse à ceux qui le suivent, à ses disciples. Dans les trois paraboles précédentes, l'argent est en arrière-plan. Si vous avez bien remarqué, Les brebis ont une valeur monétaire, puisque c'est les pharisiens, il dit, lequel d'entre vous, si la 100 brebis, elle laisse pas les 99 pour aller s'occuper de celle qui est parvue, elle a de la valeur monétaire. Et le drachme perdu, c'est une pièce aussi. Et ensuite, il est question de l'héritage des deux fils, de cet argent qui est au centre des préoccupations des fils. Ça, c'est le sujet qui intéresse un petit peu notre société. Notre société fonctionne autour de l'argent. Et donc Jésus, s'adressant à ses pharisiens, a utilisé beaucoup le support. En arrière-plan de son enseignement, il y a l'argent. Et l'argent tient une place écrasante dans notre société. Hein, on a des médias qui nous donnent les sondages. Voilà, qu'est-ce qui préoccupe les Français? C'est les hommes politiques, on ça beaucoup en tête. Il faut répondre à aux préoccupations des Français pour avoir des électeurs et des voix. Le premier, le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat. Ce qu'on met dans le caddie toutes les semaines. Voilà la préoccupation des Français, soi-disant. Mais c'est vrai que l'essentiel de notre énergie est accaparé pour gagner notre vie. Comment gagner de l'argent? C'est un souci. Et dès le plus jeune âge, les enfants sont éduqués pour, dans le but, la société les forme pour pouvoir avoir plus tard un travail, pouvoir travailler, gagner sa vie. C'est certainement une chose raisonnable et sensée à faire. Comment avoir de l'excédent quand on gagne notre vie, quand on a payé tout ce qu'il faut? C'est un souci, une préoccupation. Comment il nous en reste un peu? Pour qu'il nous en reste un peu? Et ce peu qui nous reste, comment, qu'est-ce qu'on va en faire? Comment on va le dépenser? Et voilà le souci de notre société, et tout tourne autour de cela, même nos vacances. Et il semble que Jésus là va s'attacher avec cette parabole à effacer cet arrière-plan, ou le modifier, ou que les disciples voient les choses différemment. Cet arrière-plan financier qui, il y avait en toile de fond des paraboles suffisantes. Jésus veut changer quelque chose là. Et il donne un enseignement pour eux avec, cette parabole. Alors, si on demande, mais qu'est-ce que Jésus veut dire dans la parabole? Il le dit clairement. Au verset 8. Les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Ça, c'est là. La Bible Second. La Seconde 21 traduit ainsi. Les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que le sont les enfants de lumière. Les gens de ce monde sont plus avisés dans leur rapport à leurs semblables que les fils de lumière. Ceux qui vivent pour ce monde sont plus avisés dans leurs affaires avec leurs semblables que les enfants de lumière. Les gens de ce monde sont plus habiles entre eux que celui qui appartient à la lumière. Et donc notre parabole est une belle illustration de la façon dont fonctionne le monde qui nous entoure. En effet, si on la relit, verset 1. Un homme riche avait un intendant et celui-ci fut accusé de dilapider ses biens. Accusé, dénoncé. J'ai regardé... Donc le mot grec là, c'est le mot diabalo, jeté en travers. C'est un cousin du mot diabolos, le diable. Et l'intendant, on peut l'imaginer cafardé. Hein. C'est ce qu'il se passe tellement souvent sur nos réseaux sociaux aujourd'hui. Voilà, on balance une calomnie sur une personne et ça se diffuse partout. Et donc, est-ce que notre intendant... s'est fait accuser à tort ou à travers, le suite de la texte veut le dire, mais voilà un fonctionnement, un mode de fonctionnement de notre société, la rumeur publique. Verset 3. L'intendant dit, que dois-je faire puisque mon maître me retire l'intendance? Bêcher, je peux pas, mendier, je peux pas. C'est ce que je vais faire pour qu'il y ait des gens qui m'accueillent chez eux quand je serai relevé de mon intendance, et il manigance ce plan pour faire revenir les débiteurs et s'arranger pour que, plus tard, il ait une place qui soit bien reçue dans leur maison. La magouille, le rôle de la magouille, notre société fonctionne avec la magouille, la rumeur publique, la magouille. Et les soupçons de magouille pourrissent notre société. Elle décrédibilise le monde politique. On ne les croit pas. Tous des magouilleurs, tous ils regardent qu'à eux-mêmes. Et c'est un mal avec lequel nous vivons et nous avons appris à vivre. La magouille. Et souvent, nos contemporains eux-mêmes pratiquent cela. C'est normal. C'est comme ça que ça fonctionne. Verset 5. Alors il fit appeler chacun des débiteurs de son maître, cet intendant, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» C'est incroyable. C'est lui le comptable, et il ne sait même pas combien les fournisseurs doivent, ou les clients doivent à son patron. C'est le monde à l'envers. Et on voit que la rumeur était fondée dans ce cas-là. Et l'incompétence. L'intendant ne sait pas les dettes des clients. Et là aussi, l'incompétence, ça a une toile de fond et ça grouille dans notre société, on le sait. Quand on est des employeurs, on sait bien. Un employeur, il va toujours se débrouiller dans ses critères. C'est qu'il faut que ses subordonnés soient plus incompétents que lui. Comme ça, ils ne lui font pas ombre. Alors on choisit des gens qui seront pas trop doués, hein, pour travailler, pour être leur chef. De peur qu'ils ne prennent la place, qu'on voit, mais il est beaucoup plus doué que notre chef, celui-là. C'est à lui qui doit être chef. L'incompétence qui rôde, qui taraude notre société. Versets 5 et 7, donc l'usage du faux. Combien dois-tu, toi? Allez, marque cela. Et puis, ma foi, les débiteurs, là, ben, ils sont d'accord, hein? Hein? Si mon banquier veut me rajouter de l'argent sur mon compte, est-ce que je vais être content? Mais oui, il signe le papier. Ok, je le signe, si c'est lui qui me le dit. Après tout, hein, erreur de la banque en votre faveur. D'accord, je suis d'accord. Toucher 20 000 francs. L'usage de faux. Et au verset 8, finalement, qui est le héros de l'histoire? Le maître félicita l'intendant injuste parce qu'il avait agi en homme avisé. En fait, le héros, c'est celui qui, dans un contexte tordu, arrive à s'en sortir. Celui qui profite du système sans se faire prendre. Voilà les héros de notre société. Hein. Et voilà ce que beaucoup de nos concitoyens peut-être cherchent. Arriver à, dans ce système qui, de toute façon, est tordu, est corrompu et ne marche pas, arriver à tirer son épingle du jeu par tous les moyens. Donc, Jésus constate que dans le contexte de cet argent qui est au centre de toute chose dans notre société, les chrétiens, eux, par contre, ont bien du mal à tirer le profit de cette situation en tant qu'enfants de lumière. Il ne s'agit pas de tirer un avantage de situation comme le fait le monde, parce que tout est sanctionné par la loi. Tout ce qui a été fait et qui tout est sanctionné par la loi dans cette parabole, c'est impossible dans le royaume de Dieu. Tirer notre épingle du jeu avec cet argent selon les standards de la lumière, voilà le défi un petit peu que place devant nous le Seigneur. Voyons voir la suite de notre texte, le commandement de Jésus. Et il commence, verset 9. Et moi je vous dis que. Ça a exactement la même... Il y a le « et ». Eh bien moi, qui n'est pas pareil, parce que dans le sermon sur la montagne, Jésus dit « moi je dis que ». Mais c'est pareil, « moi je vous dis ». Et on peut maintenant ouvrir nos oreilles, on peut ouvrir notre cœur, car le maître va parler et va donner une instruction à ses disciples. Un commandement, verset 9. Moi je vous dis, faites des amis avec les richesses injuste. Faites des amis avec le mammon de l'injustice. C'est toujours ce mot richesse ici, c'est partout le mot mammon. Pour que quand il fera défaut, il vous accueille dans les demeures éternelles. Surprenant. Utiliser l'argent pour faire des amis. Alors, bien sûr, c'est pas la mode de Facebook, hein. C'est pour, il s'agit de donner pour de vrai des choses qui ont de la valeur marchande ici-bas. Mais on sait qu'on n'achète pas l'amitié, ni dans le monde, ni dans le royaume des cieux. Alors, comment cela peut-il se faire? Utiliser l'argent pour faire des amis. Il est question des tabernacles. Dans les tabernacles éternels. Pour que vos amis donc vous accueillent dans les tabernacles éternels, dans les demeures éternelles. Alors les tabernacles, ça fait penser bien sûr à la septième fête de l'Éternel qui avait été instaurée pour les enfants d'Israël. La dernière de ces fêtes-là. Une fois les Israélites installés dans leur belle maison, dans le pays de Canaan, au milieu de l'abondance de toutes les récoltes, ils devaient se rassembler donc. Et la dernière des fêtes, c'était célébrer le souvenir du temps où ils étaient dans le désert, où ils n'avaient pas tout ça, et le temps où c'était difficile, où il n'y avait que la manne à manger, et qu'il n'y avait que des tentes pour s'abriter. Et joyeusement donc, il devait se souvenir de ce temps dans le désert. Ça fait référence à cela, les tabernacles. Il est question aussi, le Seigneur parle, les mammons de l'injustice. Faites-vous des amis avec les richesses injustes, avec l'argent trompeur. Le salaire que je perçois tous les mois dans ma société n'est pas pur. Quand on signe des affaires, des contrats, il y a toujours une part de dissimulation. Des fois même le commercial, il ment. On dit qu'il est obligé de mentir. Et puis, l'acheteur qui est en face, il sait que celui qui lui parle ne lui dit pas toute la vérité non plus. La dissimulation. Quand on fabrique nos lignes d'emballage, c'est pas optimal. C'est pas ce qui se fait de mieux. Mais voilà, on fait, le temps presse. On fait pour le mieux, on fait vite. Et voilà, suffit que ça fasse à peu près et ça ira. Et puis après, il y a des vices de fabrication. Certains qui sont tolérés par le client. Il y en a d'autres qui sont cachés. Et au final, le fonctionnement n'est pas parfait. Et le salaire que je touche n'est pas pur. Il n'est pas pur. Des richesses injustes. L'argent qui pour le monde est une idole, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, a écrit Paul, on l'a lu tout à l'heure. Cet argent injuste, Dieu nous en laisse l'intendance, cependant. Pourquoi, dit-il, pour être reçu dans les tabernacles éternels. Un jour, l'argent disparaîtra. Il n'aura plus cours. Il n'aura plus aucune valeur. Et dans le ciel, il y aura une grande fête. Une grande fête des tabernacles. Où l'on commémorera le pèlerinage dans ce monde. Le temps où nous avons cheminé dans notre vie chrétienne. Le temps où l'on a vécu sous les tentes. Mais là, tous les enfants de Dieu ne sont pas logés à la même enseigne. Nous n'avons pas connu la précarité matérielle. Nous n'avons pas connu la souffrance de ne pas avoir de toit en dur. Et donc le but ici, c'est que nous puissions être reçus un jour pour nous réjouir avec ceux qui fêteront cette fête-là. D'une façon différente, ils auront la consolation éternelle de tout ce qu'ils n'ont pas eu sur la terre et qu'ils retrouveront dans le ciel. Et donc, nous qui avons eu tout ce qu'il nous fallait, on pourra être invité, on pourra être reçu pour se réjouir avec eux dans le ciel. C'est un beau programme. L'éternité se prépare maintenant. Être ensemble dans le ciel, être invité dans le ciel, être reçu par ceux qui aujourd'hui, ici-bas, n'ont rien que le Seigneur. Rien que le Seigneur. Comme seul tente, comme seul secours, comme seul appui. Comment s'y prendre pour préparer cette éternité? Comment dompter ce mammon, comment être son maître et comment ne pas être son esclave? Alors le Seigneur donne de bonnes recettes, je trouve, j'en vois trois au verset 10. Celui qui est digne de confiance dans une petite affaire est aussi digne de confiance dans une grande. Celui qui est injuste dans une petite affaire est injuste dans une grande. Une honnêteté absolue qui contraste carrément la nuit comme le jour avec ce qui se fait dans ce monde. La bataille seconde se gagne dans la fidélité, dans les petites choses. Dans les petites choses du quotidien, être fidèle. Bon, il y a des exemples, vous êtes tous confrontés. On est à la caisse, voilà, la caissière se trompe, elle nous rend trop de monnaie. Bon, ben je garde la monnaie dans ma poche, je dis « Ah, ça compense pour les fois où on m'a pris de l'argent en trop. » Ou bien je rends la monnaie en trop. Ou bien il y a un article qui n'est pas passé à la caisse là. Oh, ça va, ça vient. Donc, demander à la dame de le payer. Faire des déclarations d'impôts qui sont justes, transparentes, où on va être sûr, surtout sûr, de ne pas sous-déclarer. Payer ses factures dans les délais, ça semble une petite chose de payer une facture dans le délai. Mais la personne qui a besoin, elle a peut-être besoin de cet argent. On pense toujours, hein, ils sont riches, même si je paye avec un mois de retard. Non? La fidélité dans les petites choses du quotidien vous permettra d'être fidèle aussi dans les grandes. La fidélité dans les petites choses financières, nous dit Jésus, pour que maman soit notre serviteur et ne soit pas notre maître. Versets 11 à 12. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance avec le maman injuste, qui vous donnera le bien véritable ? Si vous n'avez pas été digne de confiance pour ce qui appartenait à quelqu'un d'autre, qui vous donnera votre propre bien? Notre argent ne nous appartient pas. Nous en sommes de simples intendants. C'est quelque chose qui est difficile à saisir et à vivre avec cette pensée-là. L'argent que j'ai ne m'appartient pas, il est au Seigneur. Et peut-être c'est facile pour vous. En tout cas pour moi, ça a été quelque chose, c'est quelque chose de très difficile. J'ai mis 30 ans de vie chrétienne avant de réaliser que ma voiture ne m'appartenait pas, que je ne pouvais pas faire ce que je voulais avec. Le Seigneur m'a accordé cette bénédiction d'avoir des voitures très belles pour pas cher. Et moi, oh, c'est pas cher, voilà, donc ça n'a pas de valeur. Ou du moins, c'est, bon, il y a une bosse, je la cabosse, bon, c'est pas grave. Hein. Et puis il y a les cabossés là, oh, c'est pas grave, hein. Mon ancienne Mégane était cabossée de partout. Maintenant, j'ai une nouvelle voiture. Et enfin, j'ai réalisé, oh là, il faut que je l'entretienne comme si c'était celle qu'elle n'était pas à moi, mais que c'était celle du Seigneur. Alors, j'en prends soin. Du moins, j'ai le désir. Mais il m'a fallu 30 ans pour réaliser cela. Rendez-vous compte. Ce qui me concerne, j'ai du mal avec cette idée que l'argent que j'ai, ce que j'ai ne me appartient pas, que j'en suis le simple intendant, le simple gérant. Verset 13 qui suit. Aucun domestique ne peut être esclave de deux maîtres. Ou il les détestera un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez être esclave de Dieu et de maman. Il y a un défi terrible qui nous est posé là, devant nous. Il faut avoir la crainte de Dieu. On ne peut pas tromper Dieu, on ne doit pas le faire, parce que lui ne se trompe jamais. Et on ne pourra jamais le tromper. Alors, ne le trompons pas, parce qu'on ne pourra jamais le faire. Quelle folie de pouvoir avoir la pensée de « je vais, ok, je sais que je dois faire ça, mais je vais faire autre chose, je vais faire à ma manière, à ma sauce, à ma façon, je vais faire ce que je veux. » Impossible de tromper Dieu. C'est impossible. Ça se fait dans le monde, système du monde qu'on a vu, mais c'est pas ça le royaume de Dieu. C'est pas le fonctionnement de la parabole qu'il a donné de l'intendant et de son maître et de ses fournisseurs, là. C'est pas comme ça que ça se passe. Il ne faut pas tromper Dieu. On ne peut pas le tromper. On a esclave d'un seul maître. Ou bien, c'est trop grave si on se met à collaborer avec l'ennemi. La crainte de Dieu. Il y a une très belle illustration d'un homme qui a craint Dieu à la personne d'Élie, du temps d'Élie, pardon, la personne d'Abdias, du temps d'Élie, vous savez, les Israélites clochés des deux pieds. Ah ben, la prospérité nous vient de Baal. Et le lendemain, la prospérité nous vient de l'Éternel. La prospérité nous vient de Baal. Et ils étaient là, ni d'un côté, ni de l'autre, et Élie veut mettre fin à cela. Et il lance un défi à Baal, à l'Éternel, qui est le vrai Dieu? Et bien sûr, c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. C'est lui qui donne de l'abondance, ce n'est pas Baal. Et il y avait Abdias, qui était de ses propres frais, avec son propre argent, avait caché et nourri pendant tout le temps de la famine, sans prophète, pour que Jézabel ne les extermine pas. Et il dit, je suis un homme qui craint Dieu. Et voilà comment il avait utilisé ses biens. C'est un exemple, je trouve, d'un homme qui avait la crainte de Dieu pour l'utilisation des fonds, des ressources qu'il était. Il était un homme haut placé, un homme qui avait des privilèges. Et la façon dont il les a utilisés est un exemple pour nous. Trois points que nous donne le Seigneur, être fidèle dans les petites choses, penser que notre argent ne nous appartient pas, avoir la crainte de Dieu. Alors je voudrais conclure maintenant avec, en lisant Romains chapitre 12, versets 1 à 2, je vous invite à le retrouver ce passage dans nos Bibles, on sait où il est, on va se remettre en mémoire ce verset qui conclut tout l'enseignement de Paul. Romains 12, 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, et avec vos corps, vos porte-monnaies, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un service, un culte raisonnable. Verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Et donc pour les questions de nos petits sous, trois points que je résumerai là. Soyons solidaires avec les sous, surtout envers nos frères et nos sœurs dans la foi, surtout, principalement avec eux. Le souci de la solidarité, de la fidélité également, une fidélité absolue dans les petites choses qui va contraster et qui va imprégner toute la société. Soyons solidaires, soyons fidèles et soyons sagement créatifs. Jésus nous laisse l'image de cet incroyant qui savait si bien s'en sortir avec les standards de son temps. Il avait réfléchi, il avait trouvé une solution, il l'a mise en œuvre. Soyons créatifs sur la façon d'utiliser les sous que Dieu nous confie. Soyons sages, pas de précipitation, de la réflexion, recherchons le conseil de Dieu. Et si on voit la vie chrétienne de ce point de vue-là, c'est passionnant. qu'est-ce que je vais faire avec l'argent que j'ai ce mois-ci? Qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Comment je vais l'utiliser pour la gloire de Dieu? Et chaque mois, ça peut être de nouveau devant nous. Et voilà, Seigneur, qu'est-ce que tu proposes? Donne-moi une idée. Soyons sagement créatifs. Craignons Dieu, enfin. Ne trompons pas Jésus, notre Seigneur, c'est un très mauvais calcul. Le problème, le grand ennemi de la crainte de Dieu, c'est la crainte des hommes. Et ça peut nous toucher dans l'Église, de faire les choses en fonction du regard que vont porter nos frères et nos sœurs dessus. Et pas en fonction du regard que Dieu va porter, mais en fonction du regard que nos concitoyens portent. C'est ça qui va nous conduire dans le... Peut-être le... Voilà, se mettre en avant comme Ananias et Saphira l'avaient fait. Ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Ils n'avaient pas la crainte du Saint-Esprit. Ils voulaient paraître aux yeux de la communauté. La crainte des hommes, c'est un ennemi terrible. Hein? Craignons Dieu. Il y a une belle illustration, je trouve, pour ma part, dans la parole de Dieu. C'est la deuxième épître aux Corinthiens, le chapitre 9, que je vous encourage à lire et à méditer cette semaine. De Corinthiens 9, où il est question de la collecte des églises qui sont riches, les églises de l'Achaïe qui sont riches, et celles qui sont moins riches en Macédoine, vis-à-vis des frères pauvres de Jérusalem. C'est très beau, c'est magnifique, il y a de magnifiques versets, de magnifiques... l'apôtre Paul utilise de magnifiques... Il y a de magnifiques versets à retenir et à savoir par cœur. C'est un très très bel exemple de ce don, de ce qu'on a pour des frères et pour des sœurs, pour créer ce lien. Faire des amitiés avec les richesses injustes. Il y avait des amis de René et Esther Skin, j'ai oublié leur nom, mais c'était un des principaux de leur soutien. Eux, ils étaient envoyés, ils étaient partis, hein, servir en France, et donc il y a des personnes des églises qui les soutenaient, mais il y avait ce couple qui les soutenait, l'immense majorité de leur soutien venait d'eux. Et ils revenaient ici en vacances l'été, ils passaient plusieurs jours avec René et Esther, et c'était des amis, quoi qu'il y ait eu cette relation de dépendance d'un envers de l'autre, mais c'était des amis en Jésus. C'était beau. J'ai pas beaucoup d'expérience de la vie, mais je peux vous partager celle-là par rapport aux amitiés que j'ai pu développer en Afrique. Le pasteur Dovi était un de mes amis. On était amis. Il est auprès du Seigneur maintenant. Mais souvent, je lui ai envoyé de quoi pourvoir à ses besoins avec Jackie. On lui a fait passer des dons comme on pouvait pour les projets qu'il avait. Et il y a de vraies amitiés qui se sont créées à travers cela. Donc, voilà, moi, il me tarde le ciel et de voir toutes ces personnes qui n'ont pas eu aujourd'hui et qui seront dans cette consolation éternelle, dans ces tabernacles, qui fêteront la fête des tabernacles, qui se souviendront de ce qu'ils ont vécu quand ils étaient dans leur pèlerinage, dans le désert, et pour les choses matérielles, donc, et la façon dont on pourrait y être accueilli. Mais ça se prépare maintenant. Ça se prépare maintenant, frères et sœurs, nous qui avons beaucoup reçu. Utiliser les richesses injustes pour préparer l'éternité. Seigneur, merci pour le bouleversement dans lequel tu te renverses des valeurs qui régissent notre monde, comme ton royaume est différent, est régi par des lois différentes qui sont en même temps révolutionnaires. Aide-nous, Seigneur, à faire des progrès dans cela. Aide-nous surtout à être fidèles dans ce que tu nous confies. À être fidèles et à nous laisser conduire, non pas par la crainte des hommes, mais par le désir de te plaire à toi, d'être devant toi, de te servir toi avec ce que tu nous donnes, avec ces richesses injustes dont elle sait qu'elles sont injustes, mais elles peuvent, l'usage que nous pouvons en faire peut être sain, agréable et parfait. Quelle possibilité immense tu nous laisses à nous qui sommes dans les pays privilégiés. Quel don tu nous as fait là. Ne permets pas que nous passions à côté de notre sujet, Seigneur, et fais-nous comprendre quelle est ta volonté. Merci parce que ton esprit est là pour nous conduire. Merci pour les frères et sœurs dans lesquels nous avançons. Et merci parce qu'un jour, ce sera la fête quand nous serons tous ensemble auprès de toi dans le ciel, dans le nom de Jésus, tous rassemblés dans le nom de Jésus, tous rassemblés par son sang qui a coulé à la croix, tous au même niveau, tous heureux et buvant à la même source, par Jésus. Amen.